Merci Monsieur l'Abbé pour votre accueil si chaleureux et fraternel. Je suis très heureux de pouvoir venir dans cette église que je ne connaissais pas pour bien rencontrer votre communauté, officier sévère, et donc vous donner cette petite instruction de carême pour vous aider dans cette progression vers Pâques, en ce temps où nous sommes un peu au désert avec le Christ, mais nous marchons déjà dans la lumière de la résurrection. La foi est une faculté d'audition surnaturelle qui nous permet les harmonies spirituelles du royaume des cieux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères, messieurs les abbés, je voudrais vous parler ce soir du rôle fondamental et prodigieux de la foi dans notre vie chrétienne. Je voudrais vous montrer, que le Saint-Esprit m'assiste, vous montrer la puissance éblouissante de la foi, ouvrir vos yeux sur la richesse inouïe où nous sommes dépositaires depuis le jour de notre baptême et qui fait de nous comme des enfants rois, un peu inconscients de l'héritage et du trésor dont ils disposent. Or, une phrase du grand théologien dominicain Garrigou Lagrange me semble exprimer adéquatement cette puissance surnaturelle prodigieuse de la vertu de foi. Je vous la lis intégralement. La foi est comme une faculté d'audition surnaturelle, comme un sens musical supérieur qui nous permet d'entendre les harmonies spirituelles du royaume des cieux, qui nous permet d'entendre en quelque sorte la voix de Dieu avant que nous soyons amenés à le voir face à face. Eh bien, chers frères, c'est cela la foi, cette faculté surnaturelle qui nous propulse au-delà de nos limites naturelles, qui nous proportionne à la parole de Dieu. Aussi, la foi est le premier bien que nous demandons à l'Église, et c'est d'une certaine façon la première grâce qu'elle nous octroie lors de la cérémonie du baptême, alors que le petit enfant ou le catéchumène est encore à l'extérieur de l'Église, dans la cérémonie, dans le narthex, devant le porche, le prêtre lui pose cette question, cette première question, la première question du rituel, que demandez-vous à l'Église de Dieu? Et lui de répondre, le parent ou le petit enfant, la foi. La foi. Voici la première chose que l'on demande à l'Église, le premier bienfait qu'elle nous accorde. Et quelques instants après, alors que le prêtre verse sur le front l'eau baptismale en prononçant les paroles sacramentelles, la grâce fait irruption dans l'âme du néophyte et la vertu de foi, à cet instant, prend possession de son intelligence pour la proportionner aux réalités divines. Et ainsi, comme jadis le Christ, rendant l'audition et la parole à un malheureux, le prêtre cette injonction effruta, ouvre-toi, afin d'ouvrir cette âme désormais à de nouvelles clartés. C'est la libération de la terre, et bien chers frères, libération évidemment d'abord de la tâche originelle qui tient l'âme éloignée de Dieu, mais aussi don des vertus théologales, en particulier de la foi, lumière surnaturelle ou faculté d'audition surnaturelle, pour reprendre les termes du Père Garrigou Lagrange, qui nous permet d'entendre dès ici-bas les harmonies spirituelles du royaume des cieux. Et pour bien comprendre cette réalité inouïe, prodigieuse, il faut évidemment faire l'effort de sortir d'une vision subjectiviste de la foi, où cette dernière n'est plus qu'un sentiment du cœur, un ressenti face au mystère de Dieu, une sorte d'émotion instable et fragile face à ce que l'Église nous enseigne. Eh bien, chers frères, la foi est d'abord une vertu déposée en notre âme le jour de notre baptême pour que nous puissions adhérer à des vérités qui naturellement, au sens propre, au sens étymologique, des vérités qui naturellement nous dépassent, des vérités révélées par Dieu et que l'on appelle donc la révélation. La révélation, c'est-à-dire ce message divin qui couvre depuis les prophètes de l'Ancien Testament et jusqu'aux apôtres et dont l'Église est aujourd'hui dépositaire. Garder fidèlement et de transmettre. L'objet de la foi, ce qu'il faut croire donc, eh bien ce sont tous ces mystères, la Trinité, l'Incarnation, la Résurrection, l'Ascension, la Pentecôte, les fins dernières, le purgatoire, le ciel, l'enfer, tous ces mystères que vous connaissez, tout cet ensemble de vérités révélées par Dieu et auxquelles la foi nous donne accès, ces harmonies spirituelles avec lesquelles la foi nous met en contact dès ici-bas, qui éclaire notre vie terrestre en attendant de nous ravir éternellement. bienheureux dont parlons, la foi est l'aube de la vision béatifique, c'est-à-dire que la foi nous met dès maintenant en relation avec les mystères que nous contemplerons éternellement au ciel. Quand nous entrerons dans la béatitude, et Dieu veuille que nous y entrions, seul le mode d'appréhension changera, la foi fera place à la vision, mais les mystères qui font aujourd'hui notre vie, les mystères contemplés seront les mêmes. La foi est l'aube de la vision béatifique. Et ainsi, avoir la foi, je le rappelle, pour les plus jeunes, pour ceux dont le catéchisme est peut-être un peu loin, un peu lointain, la foi n'est donc pas seulement croire en Dieu. Et à vrai dire, on peut tout à fait croire en Dieu, c'est-à-dire à l'existence de Dieu, et ne pas avoir la foi, ne pas avoir la foi catholique. C'est d'ailleurs le cas de ces philosophes nombreux qui admettent effectivement l'existence de Dieu, mais qui sont imperméables au message qui nous a délivrés. Il n'est pas absolument nécessaire d'avoir la foi pour croire en Dieu, pour croire en l'existence de Dieu. En soi, cette vérité, et l'Église l'a rappelé, cette vérité est accessible, certes avec des efforts et de nombreuses difficultés, mais néanmoins accessible à notre intelligence. Mais avoir la foi, pour nous autres, cette foi que nous avons reçue au baptême, avoir la foi, c'est infiniment plus riche que cela, c'est croire tout ce que l'Église nous enseigne infailliblement, et pour cela, il faut une vertu spéciale donnée par Dieu. Ordinairement au baptême, ou dans certains cas exceptionnels, directement par Dieu, sans le truchement de l'Église, c'est le cas des convertis qui adhèrent en un instant à l'ensemble des vérités du Crédit. La foi est d'abord une vertu, c'est-à-dire, pour continuer avec les termes du Père Yannick Lagrange, une faculté, une puissance, quelque chose en plus, pardonnez-moi cette expression un peu défaillante, quelque chose en plus qui met l'âme en symphonie avec la parole de Dieu révélée aux hommes, qui lui permet d'entendre, en quelque sorte, la voix de Dieu avant qu'elle soit admise à le voir face à face. La foi, c'est l'accès dès ici-bas avec les vérités éternelles. Et c'est dans l'intelligence que cette faculté est reçue. La foi est la vertu de l'intelligence, elle est greffée sur l'intelligence. Alors évidemment, on va dire la foi, le cœur à sa place, puisque nous adhérons, non pas à des formules, mais à la personne de Jésus qui récapitule en quelque sorte tout l'objet de la foi. Les formules, elles, sont l'expression de la foi, sa manifestation. Mais le terme, le terminus en quelque sorte de la foi, c'est la personne de Jésus, Christ lui-même, une personne vivante. Et d'ailleurs, bien souvent dans l'Évangile, au moment où il va accorder une guérison, et bien Jésus demande un acte de foi. Et celui-ci consiste en la reconnaissance de sa divinité. Reconnaissance de sa divinité et une forme d'abandon à toute sa personne. Ainsi, au Père qui lui amène son enfant possédé par un esprit muet, Jésus lui dit d'abord, si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Et aussitôt, il s'en va, le Père de l'enfant s'écria, je crois Seigneur, mais venez en aide à mon manque de foi. Il ne s'agit donc pas d'une vertu sèche et racornie, mais d'une vertu brûlante, pleine d'affection, et néanmoins, la foi est la vertu de l'intelligence. C'est-à-dire que nous croyons d'abord parce que c'est vrai et non pas parce que ça nous fait du bien. Nous croyons, comme le dit la Clé de foi, parce que Dieu s'est révélé et qu'il ne peut ni se tromper ni nous tromper, et cela nous est donné par grâce le jour de notre baptême, quand la vertu de foi vient éclairer notre intelligence. Alors, j'entends évidemment sourdre déjà quelques questions, objections, peut-être même des réclamations. Consisterait à dire que dans la vie concrète, bien tout n'est pas si simple, et que si la foi est cette faculté greffée sur l'intelligence le jour de notre baptême, comment se fait-il alors, très concrètement, qu'il y ait temps de baptiser aujourd'hui? En France, c'est évident, non seulement on n'adhère pas du tout aux vérités révélées, mais ils sont même totalement indifférents, voire les rejettent parfois. Et nous-mêmes, qui avons reçu réellement, vertu de foi, le jour de notre baptême, bien souvent nous sommes assaillis par des doutes, plongés dans l'obscurité, peut-être même révolté. Et pourtant, nous avons cette vertu reçue le jour de notre baptême. Alors, cela est indéniable, effectivement, mes chers frères, on peut avoir reçu réellement la vertu de foi et ne pas poser d'acte de foi. On peut posséder réellement cette vertu dans notre âme et peiner à poser des actes de foi. Il faut donc bien distinguer les deux, la vertu de foi reçue au baptême et les actes qui émanent de cette vertu. La vertu de foi pourrait être comparée à une nappe phréatique souterraine. Et les actes de foi, eh bien, à une source qui jette à la surface. Il n'y a pas de source sans nappe phréatique. Et la nappe phréatique, elle, peut couler sans alimenter aucune source en sortir à la surface. Ainsi, il n'y a pas d'acte de foi sans vertu de foi, mais cette vertu peut exister chez une personne qui ne pose aucun acte de foi. C'est le cas d'un enfant, d'un nourrisson par exemple, qui a été baptisé. Ou bien on peut posséder réellement cette vertu de foi et être assailli par les doutes et les difficultés. Et cela, c'est nous, bien souvent. Mais dans les deux cas, et dans tous ces cas-là, la vertu de foi existe. Et surtout, elle est bien vivante. Seulement, les actes de foi, eux, peuvent être difficiles, inexistants, laborieux. Mais ce qui fait de nous des croyants, de façon très objective, ce qui fait de nous des croyants, c'est d'abord cette vertu que nous avons reçue le jour de notre baptême et qui reste présente en notre âme tant que nous ne la renouvelons pas volontairement. C'est elle, ce trésor que nous portons dans des vases d'argile, cette vertu gigantesque, ce sens musical supérieur qui nous permet d'entendre les harmonies célestes, les harmonies du royaume des cieux avant que nous soyons admis à voir Dieu face à face. Cet ensemble de vérité, ces harmonies spirituelles, c'est-à-dire tout ce que Dieu a dit à l'homme pour l'attirer vers lui, et la foi est en même temps une vertu terriblement fragile, en elle-même, par son contenu et en raison des agressions extérieures. C'est ce que nous allons voir maintenant, ces difficultés, ces maladies de la foi. Puisque malgré sa puissance immense, que j'ai essayé de vous exposer, eh bien la foi est fragile. Elle est d'abord fragile en elle-même, simplement en raison de ce qu'elle est. Pourquoi cela? Bien, parce que croire, c'est tenir pour vrai de l'inévident. Donc nécessairement, il y a un inconfort dans la foi. Et de temps en temps, comme une rébellion de l'intelligence qui demande plus de lumière, plus de clarté. Croire, c'est adhérer fermement à des vérités qui nous dépassent et que nous ne pouvons pas démontrer intégralement à ceux qui nous en demandent raison. Ainsi, le grand danger qui menace en permanence cette vertu de foi est donc le doute, ou du moins une forme, certaine forme du doute, une forme inférieure, non pas le doute entretenu et volontaire, mais cette morsure permanente de l'inquiétude. Or, il faut bien comprendre que de telles difficultés résident non pas dans notre vertu de foi, mais dans notre intelligence, qui n'est apaisée que par la pleine clarté. On parle bien d'ailleurs de l'obscurité de la foi, comme le déplore un poète agnostique du XXe siècle qui s'adresse à Dieu, à ce Dieu dont on doute de l'existence même. Écoutez ce besoin de comprendre pour croire. Est-il un sens au mot que je profère? Est-il, outre leur labyrinthe, une porte de gloire? Comment croire, Seigneur, pour une âme que traîne son obscur appétit des lumières du jour? Nous avons cet appétit de vérité lumineuse, de vérité que nous comprenons parfaitement, que nous pouvons comprendre au sens propre, c'est-à-dire enfermé dans notre intelligence. Cela n'est pas possible pour les vérités de foi. Mais ce malaise naturel de l'âme face aux vérités de la foi, et donc il faut le comprendre d'ordre intellectuel, c'est une insatisfaction de l'intelligence qui pointe toutes les difficultés des mystères de la foi, tout ce qui lui paraît contradictoire dans la foi. Ce ne sont pas véritablement des doutes contre la foi, mais un malaise, une insatisfaction de notre intelligence. Comme le disait le bienheureux Newman, mille difficultés ne font pas un doute. Ainsi, par exemple, l'Église enseigne que Jésus est substantiellement présent dans l'Eucharistie, or il peut arriver que face à cette affirmation vraiment inouïe, qui ne repose que sur la parole de Jésus, face à laquelle, eh bien, mes sens ne me donnent aucune assurance, eh bien, que mon esprit, qui n'est absolument pas soutenu par l'expérience sensible, chancelle et perd de pied. Mais à condition que je persiste à vouloir croire, eh bien, ces difficultés ne font pas un doute au sens propre. Ainsi, ne faut pas prendre pour un doute ce sentiment de crainte panique qui peut parfois nous saisir face à l'inévidence du mystère chrétien. La foi est une adhésion dans l'obscurité. Or, elle ne supprime pas ce mouvement naturel de l'intelligence qui recherche en permanence la lumière. Par conséquent, notre esprit qui aspire par nature à connaître les raisons des choses, nous recherchons en permanence les causes, les raisons, le pourquoi, eh bien, notre esprit reste profondément insatisfait par rapport au mystère de foi. Il continue à chercher et à se poser des questions. Or, il peut arriver que ses pensées éveillent en moi des mouvements affectifs, comme par exemple la crainte que finalement tout cela ne soit pas vrai. Et bien souvent, eh bien, le démon intervient à cet instant pour exploiter habilement ces mouvements. Il voudrait me faire croire que je suis en train justement de perdre la foi, puisque je doute finalement que tout cela soit vrai, mais il n'en est pas bien chercheur. Si la foi consiste effectivement, comme Saint Pierre l'a fait, à marcher sur les eaux, eh bien il est normal que dès que l'on quitte le Christ des yeux pour regarder d'un peu trop près ce sur quoi on pose les pieds, eh bien on soit parfois saisi d'une sorte de vertige. Alors il faut simplement, comme Saint Pierre, se tourner vers le Christ et lui dire très simplement: Seigneur, au secours, sauvez-moi. À côté de ces difficultés qui assaillent donc l'âme croyante, ces difficultés, donc cette morsure de l'inquiétude permanente que tout cela ne soit pas vrai, il existe un autre danger qui concerne non plus la vertu elle-même, ce n'est pas cette fragilité de la vertu dont nous venons de parler, mais qui concerne le contenu de la foi, ce que nous croyons, son objet. Et il s'agit d'un esprit de diminution, d'un esprit d'amoindrissement qui tend à effacer des yeux de notre pensée la réalité vive et intense des mystères de la foi. Et cela, je pense, pour trois raisons. Tout d'abord parce que les mystères de la foi s'appuient, prennent source dans des événements incompréhensibles qui nous dépassent. Et que si notre pensée aime s'arrêter sur tout ce qui est à sa mesure, à son échelle, elle redoute tout ce qui la dépasse. Nous avons tous, au fond de nous-mêmes, une maladie étrange et pernicieuse. Les choses nous semblent naturellement incroyables dès qu'elles sont au-dessus de notre pensée. Nous doutons de la réalité de tout ce que nous ne comprenons pas. Et c'est une attitude à la fois infantile et orgueilleuse que Pascal stigmatisait en ces termes: ce qui est incompréhensible ne laisse pas d'être. Donc tout d'abord, ces mystères sont reliés et sont même eux-mêmes incompréhensibles. On pense à tous les mystères de la vie du Christ. Ensuite, ces mystères sont reliés à des événements anciens, reculés dans l'histoire, sur lesquels les siècles ont passé. Et ainsi, la masse d'événements qui se sont déroulés depuis les dérobe facilement à notre imagination et à notre contemplation. Ils sont tellement loin de nous que nous ne nous arrêtons plus à leur réalité historique, que nous oublions finalement leur réalité historique. Et sans cela, surtout conscient, eh bien nous en restons parfois un peu au niveau du compte, particulièrement avec certains mystères de l'enfance de Jésus. Et enfin, troisième point, ce sont les événements familiers dont nous avons parlé. Pour la plupart, pour beaucoup, du moins d'entre nous, certainement, on nous a entretenu dès l'enfance de ces mystères. D'une certaine façon, nous semblent évidents. Ils font partie de notre paysage religieux. Or, s'il existe une familiarité qui est cause d'attention et de profondeur parce qu'elle naît une certaine intimité affectueuse, il existe aussi une familiarité qui émousse notre attention et qui ne nous laisse plus apercevoir distinctement ce que nous avons trop vu. Il y a même une familiarité, c'est évident, dans les rapports humains, qui engendre le mépris. Il est donc évident que notre proximité avec le mystère de la foi, l'habitude que nous avons de le côtoyer, si elle est bonne en elle-même évidemment, comporte aussi un réel danger, celui de porter sur les vérités surnaturelles un regard usé et terne. Et ainsi qu'un Dieu se soit fait homme, ne nous étonne plus, ne nous énerve plus, que le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers visible et invisible, le Tout-Autre, comme disaient les anciens, que le Tout-Autre se soit fait l'un de nous, ne provoque plus notre admiration. Tout cela est devenu terriblement banal. Et ce qui concourt aussi à banaliser le mystère de notre foi, c'est que nous sommes obligés de les ramener à la commune mesure dès que nous en parlons. Alors que nous devrions, pour parler des choses de Dieu, n'avoir que des mots neufs, réservés pour cela, qui ne servent qu'à cela, ce que fait la liturgie avec les mots sacrés. Eh bien, nous parlons des événements surnaturels et des mystères avec des mots usés, éternels, par l'emploi quotidien. Or, il est sûr que cet effacement de réalité dans les mystères surnaturels, eh bien, est l'auxiliaire le plus assuré de la tiédeur et de l'anémie spirituelle. Notre vie n'aura pas de motif de sortir de sa tiédeur, de son égoïsme, de sa banalité, si les mystères de notre foi, eh bien, ne sont pour nous que de vieux événements dont l'importance est effacée dans leur lointain et dans notre inattention, puisqu'il y a en effet tant de choses nouvelles qui en permanence s'offrent à nous. Et enfin, le troisième danger qui menace notre vertu de foi vient non pas de la faiblesse de la vertu elle-même, ni de son contenu, de son objet, mais du contexte culturel dans lequel nous vivons. Et de traits de notre société représentent certainement une menace. le développement d'une mentalité subjectiviste. La sécularisation, tout d'abord, qui est un vent pernicieux qui érode en permanence la vertu de foi dans les âmes. Le climat actuel qui réduit la religion à une affaire privée, sans incarnation sociale, rend la vie de foi particulièrement rare. Dans une société d'inspiration chrétienne, la foi s'incarnait plus ou moins profondément dans la vie sociale et les différentes structures publiques, et bien reliées en permanence la foi à la vie concrète quotidienne. Par exemple, tout indiquait aux grands malades admis à l'hôpital que sa mort prochaine était un passage. L'attitude et le discours des proches et des soignants, le crucifix au-dessus de son lit, la présence habituelle du prêtre qui voyait dans l'hôpital pour apporter la communion, pour administrer les sacrements. Aujourd'hui, même s'il est inutile de se lamenter sur le phénomène lui-même, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, le chrétien se retrouve plus ou moins seul avec sa croyance. Or, et c'est ça qui est pernicieux, de l'impression d'être isolé, on passe insensiblement à l'impression désagréable de mener une vie anormale, d'être finalement un arriéré. Les vérités de la foi commencent à être frappées d'un sentiment d'irréalité. Cette impression engendre à son tour la crainte d'être dans l'erreur et conduit à remettre sa foi en question en raison du décalage qu'elle crée avec la société actuelle. Je vais m'excuser pour cet exemple un peu trivial, je cite le père Bonino dans un de ses ouvrages, mais après un mois passé dans un camp nudiste, même la personne la mieux équilibrée du monde commence à se poser des questions sur sa normalité et ne sait plus finalement si c'est elle ou eux qui ont raison. Il ne faut pas négliger ce facteur social. Nous sommes des êtres sociaux, le milieu, le climat dans lequel nous vivons a une immense influence et il peut fragiliser notre foi, particulièrement chez les jeunes, où la singularité est souvent difficile à vivre. Et ensuite, le développement d'une mentalité subjectiviste chez les baptisés, eh bien les âmes, la foi catholique dans les âmes. Il s'agit en réalité, et très précisément, du péché d'hérésie. Péché d'hérésie, c'est-à-dire de la négation obstinée et en pleine connaissance d'une vérité que l'Église enseigne comme appartenant à la révélation ou encore, ce qui revient au même, à donner à cette vérité un sens différent que celui que lui donne l'Église. Je me souviens d'une personne rencontrée par hasard, passée dans un certain âge, rencontrée dans le métro parisien et qui, après m'avoir félicité sur le bord de la soutane, exprimé tous ses encouragements, me dit, en me saluant à la fin, néanmoins mon père, heureusement, c'est un peu actualisé. Alors, inquiet, je lui demande évidemment quelques précisions, et elle de m'expliquer, eh bien, par exemple, mon père, quand j'étais enfant, moi, eh bien, nous apprenait au catéchisme, le frère nous expliquait au catéchisme qu'au jour de l'ascension, Jésus était remonté au ciel avec son corps, comme ça, comme une fusée. Et ainsi pour cette personne, parce que cela était intolérable et inimaginable pour son intelligence, elle ne croyait pas à l'ascension de Jésus tel que l'Église l'entend, mais en même temps, elle croyait à la résurrection et à la présence réelle de Jésus dans une hostie, donc dans un morceau de pain. Dans le cadre de la foi, en plus de mener à l'hérésie, le subjectivisme est profondément incohérent. À partir du moment où on adhère à des vérités surnaturelles, il n'y a aucune raison d'en accepter certaines et d'en refuser d'autres. Sous quel motif peut-on refuser de croire à l'ascension si l'on croit à la résurrection? Est-ce plus difficile pour le Fils de Dieu de remonter au ciel ou de se ressusciter? Et ainsi l'hérésie, puisque c'est bien cela dont il s'agit, ne se réduit pas à une erreur. C'est bien plus profondément une attitude du cœur, une attitude de l'esprit dont le ressort secret est toujours l'orgueil. Il se peut évidemment que mal informé, mal catéchisé, eh bien j'ignore, je comprenne de travers tel ou tel aspect du mystère chrétien, c'est autre chose là, c'est une erreur qui ne deviendrait une hérésie que si je m'obstinais à mal interpréter, mal comprendre cette vérité, nonobstant les éclairages que me donnerait l'Église. Et ainsi, l'hérésie est un péché grave parce que l'hérésie, en refusant donc tel ou tel enseignement de l'Église, montre que finalement, il n'a rien compris au motif de la foi, c'est-à-dire à l'attitude spirituelle qui est la base de notre foi. Son refus obstiné témoigne que s'il adhère aux autres vérités que l'Église nous enseigne, eh bien ce n'est pas parce que Dieu, qui est la vérité même, nous a révélée, ce n'est pas par obéissance à la parole de Dieu, parce qu'il adhérerait à ce moment-là à toutes les vérités, et donc celle-là devrait adhérer. adhérer à l'ascension autant qu'à la résurrection ou qu'à la Pentecôte, mais si cette personne est en hérétique, n'adhère pas donc à ces vérités parce que Dieu les a révélées, mais simplement pour des raisons humaines. Parce que ces affirmations lui semblent plausibles ou intéressantes, et cela signifie donc que l'hérétique n'a pas la foi. Même s'il affirme certaines vérités que confesse aussi le croyant, il ne les affirme pas pour la même raison. Ce sont pour lui des opinions humaines. Cela ne signifie pas que le croyant ne s'intéressera pas, ne croira pas aux vérités intéressantes et plausibles, mais simplement qu'il croit d'abord pour cela qu'il y allait. Et donc cette hérésie est une subversion très profonde de la foi, et elle est malheureusement très répandue, comme le signalait très fréquemment le pape Benoît XVI. Et en même temps, ces difficultés, ces menaces qui assaillent régulièrement la foi nous montrent que cette vertu est bien vivante, qu'elle est certes susceptible de croître, de progresser, mais aussi de s'affaiblir et de disparaître. La foi n'est pas une vertu statique, donc nous n'avons pas la foi pour toujours. Une fois pour toutes, nous pouvons progresser dans la foi peut aussi diminuer, et nous pouvons perdre réellement la foi petit à petit, imperceptiblement, par paresse, par négligence, par manque de sérieux dans notre vie chrétienne. On ne perd pas nécessairement la foi avec fracas et scandale, ça arrive. Mais ce n'est finalement pas le plus souvent. La plupart du temps, cela se passe insensiblement, sans bruit, discrètement, parce que nous ne prenons pas soin de cette faculté surnaturelle qui nous a été remise au baptême, cette faculté si puissante et si fragile, parce que nous ne remédions pas aux épreuves et aux difficultés que nous venons d'évoquer. Donc voyons quels sont ces remèdes auxquels l'âme peut recourir pour éviter, pour juguler en quelque sorte ces épreuves, ces maladies de la foi, et quelle est la croissance que l'âme peut connaître dans la foi. Comme nous le disions, la foi est une faculté de vision surnaturelle qui nous permet d'entendre les harmonies célestes. Or, cette faculté peut évidemment progresser, croître, pour nous permettre finalement d'entendre de mieux en mieux les harmonies du royaume. En commentant le récit de la tempête apaisée dans l'Évangile, le cardinal Journet, procureur de l'Union suisse des années 60, disait, au cours d'une conférence, « Je pense quelquefois, c'est d'ailleurs un peu drôle, quand les apôtres étaient dans la barque avec Jésus, ils l'ont réveillé parce que la tempête était trop forte. Jésus leur a posé la tempête et il leur a dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors je pense que les apôtres, quand la tempête venait, quand la barque commençait à couler, auraient dû couler avec Jésus jusqu'au fond. Il serait arrivé certainement quelque chose de merveilleux, on ne sait pas quoi. Par cette réflexion un peu malicieuse, le cardinal Journet voulait montrer à ses auditeurs que la réaction de Jésus lors de cette tempête sur le lac de Tibériade est effectivement un peu surprenante. Une violente tempête s'est levée qui menace de faire chavirer la barque. Jésus dort, ignorant le danger. Alors, que pouvaient faire les apôtres à part appeler le Christ au secours au moment où il se voyait mourir noyé? Et n'était-ce pas déjà un signe de foi que de se tourner vers Jésus pour qu'il leur vienne en aide? N'était-ce pas déjà un acte de foi en cette puissance? Et pourtant Jésus leur répond, pourquoi avez-vous peur aux gens de peu de foi? Le Christ ne leur dit pas qu'ils n'ont pas la foi, mais qu'ils manquent de foi, gens de peu de foi. Et c'est certainement l'enseignement de cet événement de la vie de Jésus et de ses apôtres. Les apôtres ont la foi, effectivement, mais pas suffisamment. Comme nous le disions, la foi est une vertu vivante, et nous devons donc veiller à cette croissance. Nous sommes responsables de la croissance de notre foi, et cette croissance peut se réaliser de trois façons. Au niveau du contenu, non pas croire des vérités en plus, puisque, comme nous venons de le dire, eh bien, l'acte de foi embrasse tout ce que Dieu a révélé, que l'Église enseigne, mais en revanche, on peut progresser dans l'explication toujours plus grande des insondables richesses des mystères chrétiens. Et c'est là que cela nous aidera d'ailleurs à combattre la première difficulté que nous avons évoquée, ces réclamations de l'intelligence troublées par des vérités qu'elle ne comprend pas parfaitement. Et ainsi la formation religieuse continue est le meilleur moyen de lutter contre ce malaise de la raison qui réclame toujours davantage de lumière. Et cette formation est capitale. On ne peut pas se satisfaire de la foi du charbonnier sans mettre notre vie chrétienne en danger. On ne peut pas mettre de côté les questions légitimes que se pose une intelligence saine. Plus notre appétit intellectuel est important, plus nos capacités sont élevées, plus nous devons satisfaire de cette première instruction, c'est non seulement mettre le serpent en danger, puisqu'alors nous ne pouvons pas répondre aux questions que nous nous posons, mais c'est aussi vivre dans un décalage grave et coupable entre notre maturité d'adulte et notre appréhension des mystères chrétiens. Donc, importance de la formation religieuse. Ensuite, la foi peut progresser au niveau de son enracinement dans notre intelligence, de telle sorte que les vérités que nous croyons sont toujours plus solides dans notre esprit et ne deviennent pas, c'est le danger qui guette tous les chrétiens, une sorte de conte lointain et réel auquel nous croyons certes de façon un peu superficielle. Or, le grand remède de l'Église pour lutter contre cet affadissement de la foi, cet effacement des réalités surnaturelles, eh bien, c'est la liturgie. La liturgie qui représente chaque année les mystères auxquels nous croyons, qui les fait revivre dans le cœur des églises. C'est le mystère de Noël, de la Passion, de la Résurrection. Et cela pour que nous n'oublions pas que les œuvres de Dieu sont des œuvres vraies, des œuvres réelles. Et qu'aussi loin que remonte le moment historique où elles se sont effectivement déroulées, elles n'en restent pas moins des mystères vivants qui brillent à jamais de leur éternelle vérité. Mais on lutte aussi contre cet esprit d'inhibition et d'amoindrissement de la réalité des mystères à travers la prière, notre régularité dans la prière, notre dialogue avec Dieu, par notre assistance à la messe, par nos communions bien préparées, par nos confessions, par nos adorations eucharistiques qui irriguent nos âmes, la présence aimante et toute puissante du Fils de Dieu, par nos actes de charité, toute cette prière personnelle qui nous aide à enraciner cette foi dans notre âme. Et enfin, la foi doit croître non plus en elle-même, mais quant à son influence dans notre vie concrète. C'est-à-dire que les vérités de la foi, et il faut y veiller, ne doivent pas rester des théorèmes abstraits, relégués à la cime de l'esprit, mais étrangers à ma vie concrète. La foi doit au contraire imprégner toute ma vie, ma manière de penser, ma manière d'agir. Comme le disait saint Augustin, ayez des yeux chrétiens, c'est-à-dire ayez un regard chrétien sur les événements. Eh bien, chers frères, on raconte, et vous connaissez certainement cette anecdote, dans la vie de Saint-Louis, qu'un messager arrive un jour dans son palais pour lui annoncer que l'enfant Jésus venait d'apparaître dans une chapelle voisine au cours de la célébration de la messe. Le messager priait le roi de venir admirer ce miracle. Or, Saint-Louis lui répondit, « À quoi bon voir, puisque je crois. Dieu aussi était à la messe ce matin, l'Eucharistie m'a fait voir Dieu, et je l'ai reçu. » Le roi très chrétien était aussi le roi très croyant. Les vérités de la foi étaient présentes dans son âme avec la même force, la même réalité que s'il les avait contemplées avec ses yeux de chair. Alors que notre foi soit aussi vive, aussi limpide, aussi solide, protégeons-la. Eh bien, chers frères, nourrissons-la, développons-la, prenons ou reprenons conscience de cet immense trésor qui nous a été remis au moment de notre baptême. Ce jour-là, comme les disciples d'Emmaüs, nos yeux se sont ouverts et nous l'avons reconnu, ainsi que la foi nous garde ouverts à la clarté du Verbe, qu'elle nous donne d'entendre dès ici-bas les harmonies spirituelles du royaume des cieux et nous prépare ainsi à cet instant où nous serons amenés à le voir face à face dans la lumière de gloire, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.